Inventeur génial de machines en tout genre, Claude Degray a fait une carrière dans l'aéronautique. Son ingéniosité, Claude la met aujourd'hui au service des arts. La peinture d'abord, Claude le Sétois expose dans les galeries méditerranéennes, mais aussi l'écriture. Claude déploie son imaginaire pour des récits et des romans inspirés de rencontres. La bâtarde de Lérida, l'enfer des femmes de Dieu, est l'histoire d'Isabella, jeune fille, qui au temps de l'Espagne franquiste accouche dans un couvent de sœurs intégristes. Isabella s'enfuira avec sa fille Maria, Maria qui toute sa vie sera imprégnée de la froideur de ces murs inhospitaliers. Claude Degray, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Claude Degray, vous avez publié, à compte d'auteur me semble-t-il, La bâtarde de Lérida, l'enfer des femmes de Dieu. Votre incipit, Claude Degray, votre première phrase, celle qui vous nous fait rentrer dans le livre, est celle-ci. Tout débute un peu avant midi, dans le sud de l'Espagne, plus précisément dans la région de Grenade. Il y a tout ou presque tout, il me manque l'année. Quelle période sommes-nous, Claude Degray ?
Nous sommes en 1950, voilà. Et donc ça, j'en parle après donc, de cette période-là, parce que je ne voulais pas mettre de suite l'année. Voilà, ça met un petit suspense, quoi, parce que après de suite, je commence à en parler de cette année 1950.
Absolument, déjà dans les premières pages, on comprend qu'on est juste après la guerre, en Espagne, où la situation des femmes n'est pas pour elles la meilleure époque.
Alors en fait, c'est-à-dire qu'elle s'en va parce qu'elle est obligée d'aller travailler ailleurs.
On parle là d'Isabella, l'héroïne.
Oui, Isabella, c'est la mère, hein. Enfin oui, voilà. Et donc, sa fille, oui... Elle s'en va, donc, et puis effectivement...
Isabella, c'est la fille, la mère, c'est pas Isabella. C'est...
Non, en fait, voilà, parce que...
Magdalena.
Tout commence, le père est mort.
Voilà. Hein,
voilà. Samuel meurt. Il laisse sa femme et Magdalena. Sa fille, voilà, Magdalena et Isabella.
Sa fille,
il les laisse seuls, quoi. Et effectivement, Isabella, par un truchement de circonstances, elle va donc être embauchée à 800 km de là, donc dans le comté de Lérida, voilà, où elle va être malmenée par la matrone, voilà. Et effectivement, dans ce restaurant vient de temps en temps un hidalgo qui est beau comme un dieu
et Francisco,
voilà, et elle effectivement elle craque, quoi. Alors au début non, parce que je suis une fille sérieuse, etc. et puis malheureusement au bout de quelques mois voilà, et puis elle se retrouve enceinte. Et à ce moment-là, bon, lui étant recherché par la milice de Franco, il est obligé de partir, mais il ne sait pas qu'elle est enceinte.
Voilà, là, je me suis demandé, en effet, vous commencez tout de suite par cette histoire d'amour pour parler de la bâtarde de Lérida. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui vous intéressait vraiment dans le fait de raconter cette histoire. Est-ce que c'était la situation des femmes en Espagne, le fait de se retrouver enceinte et d'être accueillie, entre guillemets, dans un couvent, ou est-ce que c'était plus précisément cette histoire précisément d'Isabella?
Alors, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Une amie me dit, je devais passer mon bac, et j'ai demandé la carte d'identité à ma mère, Isabella. Ma mère m'a dit, oh non, tu n'as pas d'identité. Alors, effectivement, j'ai dit, tiens, dis-moi en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle a commencé à me raconter son histoire. Donc, elle s'appelle Marie. Moi, je l'appelais Maria dans le livre. Voilà, donc...
C'est la fille d'Isabella.
C'est la fille d'Isabella, voilà, exactement, qui, elle... comment on va, après, à la fin, donc, quand, une fois que le livre est... donc est sortie, elle va le donner à ses quatre frères en disant, voilà, je ne suis pas la bâtarde, je suis votre sœur. Parce que tout le temps, elle a toujours été considérée comme la bâtarde parce qu'elle n'a pas le même nom que le père.
Donc ça veut dire là qu'il y a une histoire après la fin du livre, La bâtarde de Lérida. Parce que nous, on s'arrête dans le livre, Isabella, elle...
Elle meurt, et Marie a toujours froid. Marie a toujours froid parce que quand les bonnes sœurs voulaient la faire, faire signer à Isabella le papier pour être vendue, parce qu'elle était déjà vendue à un notable espagnol, elle a dit non, moi je signe pas, ma fille. Et ils ont dénudé la petite en plein hiver, hein, c'était au mois de février, et ils l'ont laissée dans le cachot comme ça. Alors elle a un petit peu pris la toile du matelas, ils se sont couverts comme ça. Une amie lui a passé un manteau, et puis par un hasard, la porte était ouverte, et elle a pu s'échapper de ce couvent.
C'est vrai que là, lorsqu'on vous racontait l'histoire d'Isabella dans ce couvent, ça donne une image de la religion catholique en Espagne terrible. Vraiment pas du tout proche de l'évangile.
Ah ben non, c'est-à-dire que bon, c'était, ils étaient comment proches du système fasciste. Donc effectivement, ils s'alliaient entre donc le docteur, le fascisme de Franco et ses sœurs qui étaient intégristes. Voilà, hein, c'était plus la religion intégriste. Je pense qu'en Espagne, il doit y avoir certains couvents où rien ne s'est passé, ou presque rien. Voilà, mais donc dans ceci-là, c'était quand même des couvents intégristes où les jeunes mères, filles mères, disons, allaient accoucher parce que il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Les maris étaient à la guerre, les maris étaient morts, ou les maris, les amants, ou les, voilà. Donc bon, pères, disons, les pères, voilà, exactement. Donc bon, effectivement, après bon, il y avait peut-être des filles qui étaient moins, qui étaient plus volages peut-être, hein, mais qui avaient un petit, bon, qui allait là, qui vendait, bon, c'est pas. Mais en fait, elle, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas, et les bonnes sœurs leur disaient non, le petit est mort.
Vous avez rappelé à juste titre le fait que cette petite d'Isabella, donc Maria, a froid. Et Isabella a des propos très durs, je trouve, lorsque Marie lui dit qu'elle a froid. Elle lui dit « Tu auras toujours froid, ma fille ». Comme si c'était vraiment inscrit au cœur de sa vie, à la naissance de sa vie, et qu'elle n'allait jamais se débarrasser de ce froid.
Et même aujourd'hui, elle n'est pas débarrassée de ce froid. Elle a toujours froid. Voilà, donc...
Même si elle est sétoise.
Même si elle est sétoise, en plus, c'est vrai, elle a toujours froid, elle a toujours son petit gilet, son petit blouson, parce que c'est dans sa nature, ça a été le début de sa vie, donc les premiers jours de sa vie, elle a eu froid, et donc elle a gardé, à mon avis, ça vient de là.
Alors, il y a d'autres personnages hein, dans ce livre, autres personnages qu'Isabella et Maria, sa fille. Il y a Francesco, qui est donc le papa de Maria, l'amant d'Isabella. Francesco, qui vient chercher, une fois que sa femme légitime est décédée, il vient chercher Isabella et la ramène dans la propriété qu'il tient avec ses parents. Mais Francesco, moi, je le trouve vraiment pas courageux, cet homme.
Et parce que c'est un homme. Voilà, donc l'homme, lui, procrée, bien souvent, n'est pas responsable, voilà, se sent moins responsable que la mère. La mère va enfanter, donc c'est son... Voilà, donc effectivement, je connais beaucoup de pères qui n'ont aucune sympathie envers leurs enfants. Par contre, je connais aussi quelques femmes dans le même...
C'est pas une attitude sexuée. Non. Il y a des gens voilà. De tout pas. Alors, il y a ça chez Francesco, en effet. Et puis, il y a aussi cette soumission à sa mère qui est très autoritaire.
Et oui, parce qu'à l'époque, c'était la comment elle avait donc... C'était elle qui détenait toutes les terres, tous les oliviers. Et donc, lui, le père de Francesco, lui, c'était, il a eu par mariage, mais donc, il n'avait rien à dire, quoi, il n'avait pas un mot. Donc, c'était la patronne, c'était la matrone, et c'était elle qui dominait. Mais à la fin, donc, elle le laisse partir contre son gré. Mais quand même, elle tient quand même la main de son mari pour lui faire comprendre que maintenant, bon, ça va, elle a compris aussi.
Est-ce que cette histoire-là est complètement marquée dans son temps, ou est-ce que vous imaginez qu'en Espagne, il se passe encore des histoires de ce type ?
En ce moment, il se passe pareil. Il y a eu une émission encore, je crois, sur une France 3 ou je ne sais pas trop quelle chaîne, où ça se fait encore. Hein. Voilà, les enfants vendus, quoi, voilà. Donc, alors comment, pourquoi, honnêtement, puis honnêtement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. J'ai décrit donc une histoire qu'on m'a ébauchée. Hein. Je l'ai romancée le plus possible pour ne pas être trop triste. Hein, parce qu'il faut aussi laisser un petit peu de joie quoi, dedans. Voilà, donc, mais je ne veux pas rentrer je pense que c'est encore d'actualité en Espagne.
Claude Degray, avez-vous d'autres projets d'écriture ?
En ce moment, je suis sur un projet d'écriture sur... je l'appelais le Benet. C'est un personnage qui a été tout petit lui aussi meurtri au niveau de la gorge, donc il ne peut plus parler, mais il a été abandonné par ses parents, etc. Et donc, bon, il vit dans la montagne. Et puis, il y a une femme du monde, disons, une jeune femme du monde, qui lui intime l'ordre de partir, parce que les terres sont à elle. Et lui, donc, il dit non, moi, je suis né ici, je reste là, j'ai mes trois chèvres, hein, je vais en mettre trois fromages, voilà. Donc, enfin, il lui dit, il lui fait comprendre, quoi. Et donc, elle le prend pour un gueux, etc. Voilà, donc après, il va se créer tout un truc autour, parce qu'il y a une cousine, mais il ne sait pas que c'est sa cousine. Enfin, bon, voilà, donc c'est faux un petit peu.
Vous partez encore d'une histoire vraie, enfin, d'une histoire que vous avez entendue, perçue, qu'on vous a transmise ?
Non, je voulais changer. Voilà, je voulais changer, trouver autre chose, un autre... voilà, donc ça va se passer dans différents sites. Surtout, c'est ça se passe du côté de Gressesac. Ça se passe du côté de Gressesac avec les anciennes mines, etc. Parce que lui, quand il descend, et c'est vrai que toutes les femmes le regardent, l'accusent, enfin bon, voilà, donc... Et puis, il faut qu'il se défende de lui de ça, voilà.
Alors, à suivre ?
À suivre, c'est bien.
Merci, Claude Degray.
Merci, Guylaine, merci.